Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
La moitié sud du pays a donc vécu un dimanche brûlant, jusqu'à 43,4 degrés à Argeliers dans l'Aude.
On va vivre dans le frigo jusqu'à la fin de l'été, puis c'est tout.
Cela relève de l'éco-terrorisme.
How dare you!
Je ne crois pas au modèle Amish.
Mais vous êtes dingue!
Il va aller sur la terre.
Là, il est temps aussi peut-être un peu de désobéir.
Sainte-Soline, à 69, plusieurs luttes pour l'environnement ont été très médiatisées ces dernières années.
Pourtant, à l'image de la contestée loi du plomb, la législation environnementale est peu à peu détricotée.
L'écologie n'a plus la cote chez les politiques et les médias.
Certains n'hésitent plus à qualifier les militants écologistes d'éco-terroristes.
Un violent retour de bâton qu'on retrouve à l'échelle planétaire, 10 ans après les accords de Paris.
Depuis le début de l'ère pré-industrielle, la température moyenne de la Terre a augmenté d'1,5 degré.
Les climato-sceptiques, notamment présents à l'extrême droite, s'emparent du pouvoir politique, comme en Italie, aux États-Unis et en Argentine.
Assistons-nous réellement à un retour en arrière?
L'écologie politique est-elle morte et enterrée?
La lutte environnementale est-elle cantonnée à l'échelle locale?
Un autre monde est-il possible entre convergence et dépassement du capitalisme?
Vert de rage, une série documentaire en 5 épisodes réalisée par les étudiantes et étudiants du Master de journalisme de Sciences Po Rennes.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vert de rage pour un nouvel épisode intitulé « Hypocrisie dorée ». Aujourd'hui, on s'intéresse à l'écologie telle qu'elle est le plus souvent racontée dans l'espace public, une écologie consensuelle, lissée, portée par les sphères politiques, économiques et médiatiques dominantes. Une écologie qui appelle à la mobilisation générale, mais qui peine à nommer les inégalités profondes qui traversent la crise climatique. Alors une question centrale se pose, comment expliquer que l'écologie soit si souvent formulée depuis ces espaces de pouvoir éloignés de celles et ceux qui vivent la crise climatique au quotidien?
Dans cet épisode, nous interrogerons cette tension entre une écologie de discours et des écologies vécues. Qui définit la bonne écologie? Qui reste invisible dans ces récits? On commence par une idée largement partagée, celle selon laquelle tout le monde serait également responsable. Un récit qui présente l'humanité comme naturellement destructrice, le fameux mythe des vipères, et qui empêche surtout de désigner des responsables précis. C'est ce qu'analyse l'écrivain et journaliste au Nouvel Obs, Eric Eichmann, dans son ouvrage « Les vipères ne tombent pas du ciel ».
Cette rumeur, je l'ai mise en titre parce qu'elle me semble emblématique du fossé qui est apparu dès le départ entre l'écologie et une partie des classes populaires, où l'écologie prend la forme de mesures technocratiques décidées par l'État, fondées à des mesures légitimes, mais qui s'imposent sans concertation, sans discussion, sans élaboration collective, à une population qui se sent déjà loin des instances de décision, loin de l'État. La décision, elle a été pensée par des scientifiques, relayés par le monde écologiste qui lançait les alertes, écologistes ou les gens qui défendaient les animaux et qui lançaient des alertes à l'époque, donc des gens diplômés, ayant un certain rapport au savoir, habitant en ville, et qui d'un coup disent aux gens dans les campagnes, dans les bourgs, dans les petites villes, en général peu diplômés, et n'ayant pas du tout le même rapport au savoir, et ils leur disent « voilà, bah vous ». Voilà comment vous allez vivre maintenant, vous n'allez plus tuer les vipères, au contraire, vous allez les protéger. Et ça m'a semblé emblématique de ce fossé-là, et ce fossé-là, il faut le regarder en face, même s'il faut protéger les vipères, il faut le faire de telle sorte que ça ne crée pas de la rancune, ça ne crée pas des rumeurs, ça ne crée pas des tirs de roquettes.
La crise écologique est souvent racontée à travers les comportements individuels. Gestes du quotidien, choix de consommation, responsabilité partagée. Cette approche a sa logique, mais elle laisse dans l'ombre un élément central. Le réchauffement climatique est traversé par de profondes inégalités sociales. Inégalités de responsabilité, d'exposition et de capacité d'adaptation. Les chiffres sont sans ambiguïté. Depuis 1990, les 10% les plus riches de la planète sont responsables d'environ 2/3 du réchauffement climatique, selon une étude de Nature Climate Change, tandis que la moitié la plus pauvre de l'humanité n'en produit qu'une part marginale. Les classes populaires polluent moins en raison de modes de vie contraints, logements plus petits, mobilité limitée, consommation restreinte. A l'inverse, les modes de vie les plus aisés concentrent l'essentiel des émissions à travers la multiplication des déplacements, des surfaces et des usages énergivores. Hervé Kempf, journaliste et écrivain, fondateur du média indépendant écologique Reporter, décrypte ces inégalités écologiques.
Les inégalités écologiques se caractérisent par deux aspects. D'une part, les personnes les plus pauvres ou les moins fortunées sont les moins responsables des dégâts écologiques, que ce soit en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de consommation d'énergie ou de consommation matérielle. Et par ailleurs, elles sont le plus souvent victimes des dégâts écologiques. C'est très manifeste pour les populations des pays du Sud qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique par les sécheresses, les inondations, les tempêtes, mais aussi par les effets de l'extinction très rapide de la biodiversité ou de l'épuisement des ressources naturelles, je pense par exemple à la pêche. Et puis, elles sont aussi dans les pays du Nord, mais aussi du Sud d'ailleurs, mais dans les pays du Nord, c'est un petit peu différent. Elles sont les plus victimes des pollutions diverses. Généralement, elles habitent dans les quartiers les plus pollués ou à proximité des zones industrielles où il y a des pollutions atmosphériques ou d'autres.
Ce que cela révèle, c'est une chose simple mais rarement dite. La sobriété n'est pas toujours un choix. Elle est souvent une condition sociale. Moins de moyens, c'est moins d'espace, moins de déplacements lointains, moins d'objets renouvelés, moins de consommation superflue. Pas nécessairement par conviction écologique, mais parce que les contraintes matérielles dessinent d'autres façons de vivre. Et cette réalité éclaire autrement les discours dominants sur l'écologie. Eric Eichmann nous l'explique.
Il y a quatre inégalités environnementales qui ont été repérées par les chercheurs, de différence entre les classes sociales. Les classes populaires polluent moins, globalement. Même si à l'intérieur de chaque catégorie, il peut y avoir des écarts. Mais globalement, les émissions de CO2, qui sont donc la pollution qui produit le réchauffement climatique, est déterminée principalement par la consommation. Les classes populaires sont plus exposées aux effets du réchauffement climatique sur leur lieu de travail. On peut penser au métier du bâtiment, de la restauration. Dans leur habitation, on peut penser à ce qui se passe dans des petits appartements partant de canicule, à l'absence de proximité d'espace vert. Et puis sur la santé, sur la malbouffe, parce que quand vous avez moins d'argent, bah, vous achetez des nourritures de moins bonne qualité, donc est plus susceptible de contenir des tas de produits dégueulasses. La troisième inégalité, c'est que toutes les mesures actuelles qui sont pensées pour réduire le réchauffement climatique, en fait, c'est des mesures qui pèsent plus sur les classes populaires que sur les classes supérieures. Typiquement la taxe carbone, qui était une mesure destinée à décourager les gens d'utiliser des voitures thermiques et qui donc pesait beaucoup plus proportionnellement sur les pauvres que sur les riches, et ça a donné des gilets jaunes. Et la quatrième inégalité, c'est que les classes populaires ont beaucoup moins voix au chapitre dans la discussion publique sur les mesures qu'il faut prendre pour lutter contre la pollution.
À cette grille de lecture s'ajoute une réalité déjà visible, ici et maintenant. À l'échelle mondiale, près de 887 millions de personnes pauvres vivent dans des zones exposées à des risques climatiques majeurs, selon une étude de l'ONU. Et en France aussi, les effets se font sentir. Canicule à répétition depuis 2022, inondations dans le Pas-de-Calais à l'automne 2023, incendie de forêt ravageur en août 2025 dans le département de l'Aude. La sociologue et militante politique Monique Pinson-Charlot détaille les rapports de domination qui se jouent ici.
La violence de classe, la violence des riches, est extrêmement dure, est extrêmement puissante avec le chaos climatique, et ça se conjugue à l'échelle de notre France, mais ça se conjugue aussi à l'échelle de la planète, c'est-à-dire il y a vraiment véritablement une guerre de classe que les riches mènent contre les plus pauvres de la planète et qui donc se répercute pour les populations africaines, les populations de l'Asie, enfin les populations, les 50% les plus pauvres qui émettent très peu de gaz à effet de serre par an et par personne.
Pourquoi la transition écologique stagne-t-elle malgré des constats anciens ? En France, les discours abondent, mais la rupture avec les énergies fossiles reste limitée. Les subventions aux énergies carbonées persistent, tandis que la consommation de ressources et les déchets atteignent des records. Le greenwashing prospère, soutenu par des secteurs puissants dont les lobbies pétroliers influencent les décisions publiques. Résultat, on parle de transition, sans remettre en cause la croissance, alors que la réduction de la consommation est centrale. Pour certains chercheurs, la crise écologique n'est donc pas seulement freinée par l'inaction, mais contenue par des intérêts qui ont tout à perdre à un changement de modèle. Hervé Kempf nous en parle.
On ne sait pas ce que signifie la transition écologique, c'est un mot un petit peu alibi, qui évite de poser la question de la croissance et de la consommation matérielle globale. Si l'on veut réduire la catastrophe écologique, empêcher la catastrophe écologique d'empirer, il y a une solution qui est très simple, en principe, c'est de réduire la consommation matérielle et la consommation énergétique. L'humanité a atteint en 2025 un niveau jamais vu dans l'histoire humaine, de consommation matérielle, d'extraction des ressources minérales, végétales, fossiles, et une quantité jamais vue aussi de déchets de son activité rejetés dans l'atmosphère, dans les océans, sur les terres, etc. Et donc, le principe fondamental qui devrait guider une politique écologique serait de chercher à assurer une activité humaine qui permette un relatif confort à tout le monde dans des conditions de justice et de paix, mais en réduisant très fortement notre impact sur l'environnement, donc la consommation matérielle et la consommation énergétique. Et dans la mesure où cela n'est pas clairement dit, et particulièrement dans les pays les plus riches, parce que les pays les plus riches, c'est-à-dire les pays européens, états-uniens, producteurs de pétrole au Moyen-Orient, Japon et quelques autres, et où la Chine notamment a rejoint maintenant de facto ce camp, ce groupe, tant que ces pays ne rompent pas avec l'idéologie de la croissance et avec l'idée qu'on va toujours pouvoir augmenter la consommation matérielle, on ne rentrera pas dans une transition écologique. Donc le vrai mot pour transition écologique, ça devrait être réduction de la consommation matérielle et énergétique, et de ce point de vue-là, tous ceux qui parlent de transition écologique ne le disent pas franchement parce qu'en fait ils ne le veulent pas.
Face à ces constats, une question plus sensible se pose. Comment l'écologie a-t-elle pu être perçue comme punitive alors que les classes populaires, peu responsables de la crise, ne sont ni indifférentes ni hostiles à ces enjeux? Lorsque les politiques climatiques se traduisent surtout par des taxes et des contraintes individuelles, sans s'attaquer aux modes de vie les plus polluants, la responsabilité se déplace des structures vers les individus. La culpabilité pèse alors sur celles et ceux qui ont le moins de pouvoir, nourrissant une tension profonde entre urgence écologique et injustice sociale.
Souvent, le discours écologique soit se place, adopte un ton moralisateur, se paternaliste, surplombant, se place au-dessus d'eux, comme s'il y avait des gens qui savaient et qui devaient expliquer aux autres ce qu'il faut faire, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a un sentiment d'humiliation sociale. L'écologie, le discours écologique qui culpabilise facilement, vient répéter le sentiment d'échec qui a déjà parfois été vécu à l'école. Donc ça, c'est le premier affect qui crée le fossé et qui donc va créer le rejet. Et la deuxième chose, c'est que les mesures concrètes qui ont été proposées par l'écologie depuis 30 ou 40 ans, c'est des mesures technocratiques. Et qui sont des mesures injustes, on l'a vu, qui donc pèsent plus sur les pauvres que sur les riches, et ça aussi c'est perçu. Donc pour ces deux raisons, et malgré l'intérêt que les classes populaires auraient à terme à une politique écologique, elles ne peuvent que rejeter la forme que prend l'écologie aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ces classes populaires sont indifférentes, qu'elles aimeraient polluer, qu'elles auraient des vieilles voitures pourries pour le plaisir, qu'elles habitent dans des passoires thermiques pour le plaisir. Les études montrent que c'est des catégories de population qui sont tout à fait attentives à ce qui se passe. Les plus précaires sont parmi les plus attentifs au réchauffement climatique d'après les études. C'est simplement que l'écologie qui leur est proposée, l'offre écologique qui leur est faite, est une offre qui en fait les relance leur sentiment et le sentiment d'humiliation et pas que le sentiment, la réalité de l'injustice sociale dans laquelle.
Maintenir l'ordre existant ne passe pas seulement par le blocage des réformes. Cela suppose aussi de produire un récit. Un récit dans lequel l'écologie est présentée comme une menace, une accumulation de contraintes, de sanctions, voire de pertes sociales. Ce cadrage n'est pas neutre. Il permet à certains acteurs politiques de capter la colère, de l'orienter ailleurs et d'opposer artificiellement écologie et classe populaire. C'est cette mécanique de construction idéologique que décrit ici Monique Pinson-Charlot.
L'écologie dite punitive, c'est un problème qui est, à mon avis, grave, mais qui est construit, hein, par précisément les dominants, l'idéologie dominante qui construit cette idée de l'écologie punitive, parce que évidemment, quand on a l'habitude d'aller dans les beaux quartiers, d'être reçu et d'écouter les conversations, on sait très bien que le must du must pour eux, c'est la classe ouvrière, les classes les plus pauvres qui votent pour eux. Alors par l'intermédiaire d'un parti plus précis que les autres, je pense au Front National devenu le Rassemblement National, mais pour eux, c'est être élu avec les voix du peuple, c'est vraiment ça le must. Et c'est d'une violence inouïe, parce que faire voter les gens contre leurs intérêts, franchement, c'est pervers. Enfin, c'est une manipulation qui est grave.
L'idée d'une écologie dite punitive, présentée comme une menace pour les classes populaires, ne s'est pas imposée par hasard. Elle s'est construite politiquement, portée par des forces capables de canaliser la colère sociale tout en protégeant les intérêts des plus puissants. Réduite à des taxes injustes, sans redistribution réelle, l'écologie produit alors l'inverse de ce qu'elle promet. Surtout si le levier le plus courant, celui de la taxation, n'est pas utilisé à des fins de justice sociale. la taxe dite Zuckman sur les grandes fortunes, a été édulcorée puis écartée au nom de la compétitivité économique. Résultat, beaucoup d'annonces, peu de contraintes réelles pour celles et ceux dont les modes de vie pèsent le plus dans la crise environnementale. Antoine Bueno, conseiller au Sénat sur le développement durable et auteur du concept de dictature verte, place la taxation au cœur de ce qu'il appelle l'économie écologique.
Je dirais la base de l'écologie économique ou de l'économie écologique, c'est effectivement la taxation, en partant du principe que les activités économiques génèrent ce qu'on appelle, de manière très techno, des externalités négatives. Alors c'est très techno pour désigner des choses tout à fait désagréables, comme toutes les pollutions en tout genre, à commencer par la pollution de l'atmosphère aux gaz à effet de serre. Donc le principe de la taxe, c'est de dire, puisque les activités économiques génèrent des nuisances, ces externalités négatives, ce sont des nuisances qui ne pèsent pas sur celui qui profite de l'activité, à savoir l'entreprise ou même l'utilisateur, mais qui pèsent sur l'ensemble de la collectivité autour, eh bien il faut réinternaliser c'est le coût de ces nuisances, les faire peser sur l'auteur de la nuisance, ce qui va d'ailleurs l'inciter à la faire cesser. La définition d'une transition environnementale, c'est vraiment l'internalisation de ces externalités, de ces nuisances. Une activité produit une nuisance, est-ce que cette activité doit être taxée? La réponse est oui. Pourquoi il faut qu'elle soit taxée? Parce que à partir du moment où on la taxe, on motive l'auteur de la nuisance à la faire cesser.
Ce raisonnement repose sur une logique économique cohérente sur le papier. Faire payer les dommages environnementaux à ceux qui les produisent pour réorienter les comportements. Une approche largement partagée dans les cercles institutionnels et est souvent présentée comme le socle rationnel de la transition écologique. Mais cette vision suppose une condition centrale, que la taxe touche réellement ceux qui ont le plus de marge et le plus d'impact.
Le problème de la taxation des riches, c'est que, pardon, mais je vais employer des termes un peu techniques, ils sont une assiette fiscale mobile. Pour dire les choses simplement, plus on est riche, qu'on soit une entreprise ou un particulier, plus on a de moyens divers et variés, ne serait-ce que des moyens juridiques, d'échapper à l'impôt national. Donc la taxation, elle devrait intervenir à l'échelle planétaire. Elle devrait intervenir à l'échelle mondiale. Quand on taxe surtout beaucoup plus fort que ne le font les voisins telle ou telle assiette fiscale mobile, ça fonctionne pas, voire pas du tout.
Et si on ne taxe pas les riches, eh bien ce sont aux autres de contribuer via des taxes plus larges comme la taxe carbone. Et quand on met à contribution des gens qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois, en leur disant que c'est à eux de faire les efforts, ça pète. Ça pète et ça donne les gilets jaunes, un mouvement qu'Hervé Kempf connaît bien.
Ce qui était très clair dans le début de la continuation des mouvements des gilets jaunes, ce qui choquait énormément les gens, c'est qu'il y avait une augmentation de la taxe carbone pour non pas financer une politique écologique, mais pour financer les baisses d'impôts sur les plus riches qu'avait engagé le gouvernement Macron. Et donc, il y a eu une protestation qui était très axée sur ce sentiment d'injustice. D'autant plus que l'on se rendait compte que dans beaucoup de régions, de petites villes, de campagnes relativement éloignées des villes, la voiture est devenue absolument indispensable parce qu'il y a, sous l'effet des politiques néolibérales, un retrait des services publics, des maternités, des centres des impôts, des bureaux de poste, des diverses administrations, des hôpitaux, ce qui fait que les gens sont de plus en plus contraints d'utiliser leur voiture. Et donc, non seulement il y avait une politique, pour simplifier, on va dire, antipopulaire, contre l'intérêt général qui se mettait en place et qui obligeait les gens à consommer de l'essence, mais en plus, l'effort qu'on leur demandait au nom de l'écologie, une taxe carbone, ne servait pas à améliorer les choses et la vie quotidienne des gens, mais à financer une baisse d'impôts sur les plus riches. Donc c'est en ce sens-là que les Gilets jaunes a été un mouvement extrêmement intéressant, qui a montré, s'il fallait s'en convaincre, qu'on ne peut pas faire une politique écologique si on ne prend pas en compte la question de la justice et de l'équité.
Vous êtes bien sur Canal B, vous écoutez la série documentaire Vert de Rage, réalisée par les étudiantes et étudiants du Master Journalisme de Sciences Po Rennes.
Comme au premier jour de cours, où tour à tour les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard, l'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont, où les moins costauds enjambent les ponts, où se défendent sans modération, en guerre permanente avec les autres. Les bandes se forment, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni,
où tu te crois mais t'es qu'un con. Et y'a qu'à toi qu'on n'a pas dit. Les autres jouent les kites pour une bille, puis une fille, le poil s'érisse, les dents graissent, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal. La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa merde, merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité, les coudes se soudent. On pousse un caille, le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté, la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté, la loi tue
comme un bon vieux. Vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez la série documentaire Vert de Rage, réalisé par les étudiantes et étudiants du Master Journalisme de Sciences Po Rennes. Vous venez d'écouter Samouraï de Shuriken. Au-delà des instruments techniques, se pose la question du pouvoir. Qui décide, sous quelles influences et avec quels intérêts en jeu? Ce que nous éclaire ici avec Hump.
Les grandes entreprises reculent énormément sur les quelques engagements qu'elles commençaient à prendre sous la pression de l'opinion publique. C'est très manifeste par exemple en Europe si on voit les pressions qu'exercent les lobbies pour pousser l'Union européenne à revenir en arrière sur un certain nombre d'engagements, par exemple relatives à la responsabilité des entreprises ou à un certain nombre de règles environnementales.
Ce que décrit ici Hervé Kempf, c'est un mouvement de recul organisé. Des engagements affichés puis progressivement vidés de leur substance sous la pression des intérêts économiques. Une dynamique particulièrement visible au niveau européen, où les arbitrages se font loin du regard citoyen.
Les responsables politiques sont très largement mis en place par le système dans lequel on est, qui est maintenant plus un système démocratique, mais un système oligarchique, c'est-à-dire où une petite classe dirigeante décide pour les autres. Je n'invente pas le mot, j'ai contribué à le remettre en circulation en quelque sorte dans un livre qui était paru en 2011, L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Et c'est très frappant, par exemple, que l'ancien président américain Jimmy Carter parlait d'oligarchie à propos des États-Unis et que Joe Biden, le président des États-Unis qui a quitté le pouvoir il y a maintenant un petit peu plus d'un an, et aussi dans son discours d'adieu, dit que les États-Unis vivaient dans une oligarchie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, et notamment du fait des médias dont on a parlé tout à l'heure, et de la façon dont ils orientent le débat public, du fait aussi que l'argent des puissances financières a énormément de poids dans les batailles électorales, tout ça fait que les hommes politiques et les femmes politiques sont très largement représentatifs de ses intérêts et donc ne peuvent pas poursuivre leur carrière politique s'ils attaquent ou incriminent les puissances financières et les puissances capitalistes.
Cette analyse déplace encore le cadre. Elle ne parle plus seulement de transition écologique, mais du fonctionnement même du système politique. Un système où les marges de décision sont étroitement liées aux intérêts économiques dominants et où la remise en cause structurelle devient un risque de carrière.
Je vois aussi, même si la presse dominante n'en rend pas bien compte, mais une société civile extrêmement active, extrêmement vivante, extrêmement créatrice d'alternatives, de façons de vivre collectivement différents, que ce soit dans les domaines de l'alimentation, des transports, de l'habitat, de l'énergie, de la solidarité, et aussi un développement des luttes qui est extrêmement important, même s'il est réprimé de manière de plus en plus violente parce que le capitalisme se sent en position, il sait bien que son message finalement ne peut plus convaincre les gens et le seul moyen de maintenir l'ordre, c'est d'avoir une répression extrêmement forte. Mais les luttes et les protestations se développent très fortement.
Face à cette concentration du pouvoir, d'autres dynamiques existent pourtant. Moins visibles, moins médiatisées, mais bien réelles. Des formes de résistance, d'organisation collective, de réinvention des modes de vie. Et en miroir, une répression qui s'intensifie.
La crainte que l'on peut avoir, c'est que l'alliance qu'ont passé les capitalistes avec l'extrême droite fait qu'on s'oriente vers des politiques à la fois très autoritaires, très néolibérales, et cherchant à stigmatiser les étrangers, les migrants, et à créer du coup des conditions de violence, de détourner en quelque sorte la colère légitime des gens contre les dominants, et de générer plutôt des logiques, sinon de guerre civile, mais en tout cas de xénophobie violente et en fait très dangereuse pour la paix.
Ce lien entre crise écologique, durcissement autoritaire et instrumentalisation des colères sociales ne relève pas seulement de l'analyse. Il traverse aussi les engagements d'aujourd'hui, en particulier ceux d'une jeunesse qui se mobilise, s'organise et refuse de voir l'écologie réduite à un outil de contrôle ou de renoncement. Cette parole militante, c'est celle que porte Oumeima Elisbiani, activiste au sein de l'antenne locale de Rennes d'Alternatiba, mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique.
une des armes qu'a, on va dire, le camp d'en face, c'est justement de rendre cette politique incompréhensible pour la majorité des gens. Ça demandera tellement de temps pour changer les choses que, en fait, il faut du courage politique. Et malheureusement, c'est pas dans la politique actuelle qu'on peut trouver énormément de courage et de vision à long terme aussi, et que les gens se disent « Ok, dans mon mandat, je verrai peut-être pas le fruit des décisions radicales que je peux porter, mais ça se verra beaucoup plus tard. »
En novembre 2025, à Belém, la COP30 était attendue comme un moment décisif. 10 ans après l'accord de Paris, l'espoir d'un engagement clair sur la sortie des énergies fossiles était fort. Mais les négociations ont surtout révélé les limites de l'action collective. Si des avancées ont été actées sur l'adaptation ou la justice climatique, aucun calendrier contraignant n'a été adopté pour le charbon, le pétrole et le gaz. Les désaccords entre États ont une nouvelle fois freiné les décisions les plus structurantes. Dans ce contexte, un glissement s'est confirmé. La transition bas carbone est de plus en plus présentée comme relevant des entreprises, supposées capables d'aller plus vite que des accords internationaux. Une évolution qui nous amène à nous interroger sur le rôle du politique et la portée réelle du multilatéralisme climatique, comme l'explique Hervé Kempf.
Les COP sont plus une photographie d'un rapport de force qu'un instrument réellement décisif. De ce point de vue-là, on sent que les COP manifestent une conflictualité extrêmement grande. Le fait déjà que les États-Unis, qui sont la première, puis qui restent la première puissance mondiale et le deuxième polluant, refusent de jouer le jeu international est en soi extrêmement préoccupant, mais montre aussi que cette puissance impérialiste et qui est l'avant-poste du capitalisme, si l'on peut dire, ne joue plus le jeu de la solidarité planétaire qui devrait être nécessaire. La deuxième chose, c'est qu'on sent qu'il y a une bataille extrêmement forte autour de la question des fossiles et là, du système énergétique sur lequel est fondée l'économie actuelle, qui est une économie capitaliste. Donc, je dirais que cette COP et le système onusien des COP, des conférences sur le climat, permet d'élucider les contradictions et les conflits qui sont à l'œuvre.
Les COP ne sont pas tant des lieux de décision que des miroirs. Elles reflètent l'état du monde, ses rapports de force, ses blocages, ses hypocrisies. D'un côté, des discours solennels sur l'urgence climatique. De l'autre, les grandes puissances économiques, historiquement responsables de la crise, qui freinent, négocient à la marge ou se retirent purement et simplement du jeu collectif. Derrière les mots, ce sont surtout les intérêts liés aux énergies fossiles et à la croissance capitaliste qui continuent de dicter l'agenda. Alors oui, ces conférences rendent visibles les contradictions. Elles montrent que la crise écologique n'est pas seulement une crise environnementale, mais une crise politique, démocratique et systémique. Tant que la transition restera enfermée dans un cadre économique fondé sur l'accumulation, la concurrence et l'injustice, elle sera soit insuffisante, soit rejetée. La question qui demeure, et que ce podcast a tenté de poser tout au long de ces échanges, est finalement simple et vertigineuse. Sommes-nous prêts à changer les règles du jeu, ou continuerons-nous à jouer pendant que le climat, lui, ne négocie plus ?
Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Dans cet épisode réalisé par Lila Berdaille et Léonard Cotreau, nous avons entendu au générique Turn the Page de The Streets et Piani Pianino de Tilacine. Puis, les voix de Eric Aishiman, Hervé Kempf, Monique Pinson-Charlot, Umeima El-Isbiani et Antoine Bueno, ainsi que la chanson Samouraï de l'artiste Shuriken. Demain, vous retrouverez le prochain épisode de cette série Vert de Rage sur l'écologie, qui s'intitule La convergence des luttes, envers et contre toutes et toutes, présentée par Inès Panlou et Louise Boquin.